Je suis un jeune cow-boy et je sais que j'ai fauté. Voilà ces enfants orphelins maintenant, dit Edward Bonshaw. Ils sont donc plus que jamais sous notre responsabilité, n'est-ce pas? Frère Pépé ne lui répondit pas tout de suite, et les deux vieux prêtres se contentèrent d'échanger un regard. Qu'en penserait Graham Greene? Demanda Juan Diego à son maître. Graham Greene? S'exclama le père Alfonso. Vous n'allez tout de même pas me dire que cet enfant lit Graham Greene? C'est parfaitement inconvenant, commenta le père Octavio. Ce n'est guère une lecture de son âge, reprit le père Alfonso. Mais Eduardo coupa court. Green est catholique. Ce n'est pas un bon catholique, Eduardo, objecta le père Octavio. Est-ce que nous sommes en train de vivre ce qu'entend Green par un seul moment? Elle est là, cette porte qui s'ouvre sur l'avenir, sur le mien et celui de Lupe? Interrogea Juan Diego. Cette porte s'ouvre sur le cirque, dit Lupe. C'est le prochain épisode. C'est notre destination. Juan Diego s'empressa de traduire avant de demander à Edward Bonshaw « Est-ce que c'est notre seul moment? Notre seule porte ouverte sur l'avenir? Est-ce que c'est ce que Green a voulu dire? Est-ce que c'est la fin de l'enfance pour nous ?» Le missionnaire réfléchissait intensément. Il n'avait jamais réfléchi autant, et pourtant, c'était un homme profondément réfléchi. « Oui, vous avez raison, c'est tout à fait juste !» dit soudain Lupe à son seigneur Eduardo, en lui effleurant la main. « Elle dit que vous avez raison dans vos pensées, » traduisit Juan Diego pour Edward Bonshaw, qui contemplait les flammes rugissantes. « Il pense que les cendres du pauvre objecteur de conscience vont retourner dans son pays et à sa triste mère, mélangées aux cendres d'une prostituée. » Tout à coup, le bûcher émit un craquement âpre, et une mince flamme bleue jaillit parmi les orangés et les jaunes, comme si on y avait jeté un produit chimique, ou que le feu avait pris à une flaque d'essence. C'est peut-être le chiot. Il était tellement mouillé, dit Rivera, tandis que tous regardaient la flamme médusée. Le chiot? S'écria Bonshaw. Vous avez brûlé un chien avec votre mère et le hippie que vous aimiez tant? Vous avez mêlé un chien à leur bûcher?
Tout le monde devrait avoir la chance d'être incinéré avec un chiot, répliqua Juan Diego.
Pendant que la flamme bleue monopolisait l'attention de tous, Lupe tendit les bras et prit le visage de son frère dans ses mains. Il crut d'abord qu'elle voulait l'embrasser, mais elle tenait à lui chuchoter un mot à l'oreille, quand bien même personne n'aurait compris si elle l'avait dit à haute voix.
« C'est le chiot mouillé, forcément !» dit Rivera.
« La narice !» chuchota Lupe.
Elle n'avait pas soufflé le mot que le sifflement cessa, et que la flamme bleue disparut.
Bien sûr, conclut Juan Diego.
La secousse de l'appareil des Philippine Airlines qui atterrit à Bohol ne le réveilla même pas. À croire que rien ne pouvait le tirer du rêve où il voyait les prémices de son propre avenir.
Chapitre 16. Le roi des animaux. À l'arrivée du vol Philippine Airlines 177, plusieurs passagers signalèrent à l'hôtesse qu'ils s'inquiétaient pour le monsieur d'un certain âge à la peau mate, présenté affalé contre son hublot. « Soit il est mort au monde, soit il est mort tout court », avait résumé l'un d'entre eux dans une formule lapidaire. Certes, on aurait dit que Juan Diego était mort, et cependant ses pensées l'entraînaient très loin, tout là-haut, avec les volutes de fumée qui s'élevaient du Azuero. Son imagination lui faisait plonger un œil de vautour au-dessus de la cité et jusqu'à ses confins, vers Cinco Señores, où le Circo de la Maravilla avait été du domicile avec ses tentes lointaines et pourtant chatoyantes. Le personnel médical avait été appelé depuis le cockpit, et avant même que tous les passagers aient quitté le bord, les sauveteurs accouraient. On était sur le point de tenter plusieurs pratiques de réanimation lorsque l'un des intervenants s'aperçut que Juan Diego était bien vivant. Par ailleurs, son bagage à main avait été fouillé et ses médicaments avaient retenu l'attention. Qui dit bêta-bloquant dit problème cardiaque. Quant au Viagra, dont les précautions d'emploi précisent qu'il ne doit pas être absorbé avec des nitrates, sa présence avait poussé l'une des soignantes à demander aussitôt à Juan Diego s'il en avait absorbé. Or, d'une part, l'écrivain n'avait pas la moindre idée de ce que recouvrait le mot nitrate, et d'autre part, son imagination vagabondait toujours à Huachaca, 40 ans en arrière, au moment où Lupe lui disait à l'oreille « La narice !»
souffla-t-il à la jeune femme anxieuse, qui comprenait un peu l'espagnol.
Votre nez ? Demanda celle-ci en touchant le sien pour confirmation.
Vous n'arrivez pas à respirer, vous respirez mal ? Reprit l'un de ses collègues qui se toucha le nez à son tour, joignant en quelque sorte le geste à la parole.
Le Viagra bouche parfois le nez, ajouta un troisième.
Non, non, pas mon nez à moi, rectifia Juan Diego en riant, celui de la Vierge Marie.
Cette mise au point troubla l'équipe médicale qui en oublia d'interroger la victime sur sa prise de médicaments, ce qui l'aurait pourtant conduite à découvrir qu'il avait fait joujou avec la posologie de son oppresseur. Les soignants jugèrent cependant qu'il donnait des signes de vie rassurants et que s'il ne s'était pas réveillé pendant cet atterrissage mouvementé malgré les pleurs des enfants et les cris des femmes, la chose ne relevait pas de leur compétence.
« On aurait dit qu'il était mort, » répétait l'hôtesse à tous et à toutes, alors qu'il était juste imperméable à ces manifestations bruyantes.
Aujourd'hui comme alors, il s'était laissé méduser par le miracle du nez virginal et il n'avait entendu que le sifflement de la flamme bleue, disparue aussi subitement qu'elle avait jailli. Estimant qu'il était hors de danger, l'équipe médicale ne s'attarda pas au chevet d'un homme qui rêvait de nez. Pendant ce temps, son ancien élève le bombardait de textos, lui demandant s'il allait bien. Juan Diego ne s'en rendait pas compte, mais Clark French était un écrivain célèbre, aux Philippines du moins. Il serait réducteur d'attribuer ce succès au seul fait que les lecteurs catholiques y étaient nombreux, et que les romans roboratifs traitant de la croyance et de la foi y recevaient un accueil plus favorable qu'aux États-Unis ou en Europe. C'était en partie vrai, certes, mais il se trouvait aussi que Clark French avait épousé une Philippine d'une grande famille. Les Quintana s'étaient fait un nom éminent dans la communauté médicale. Cette notoriété avait aidé l'écrivain à jouir d'un lectorat plus vaste sur place que dans son pays d'origine. Pour avoir été son professeur et n'avoir lu que les critiques condescendantes qu'il s'attirait aux États-Unis, Juan Diego croyait encore qu'il fallait le protéger. Par ailleurs, comme il correspondait exclusivement par e-mail, il n'avait qu'une idée floue de l'endroit où vivait son ancien élève. Il vivait à Manille, et sa femme, le docteur Josefa Quintana, était spécialiste du bébé. Juan Diego savait qu'elle était un pont au centre médical Cardinal Santos. L'un des plus grands hôpitaux des Philippines, se plaisait à répéter Clark. Une clinique privée avait tenu à préciser Bienvenido pour le distinguer de ses hôpitaux d'État crasseux. Une clinique catholique avait entendu Juan Diego, facteur qui s'ajoutait à son agacement de ne pas pouvoir décider si cette spécialiste du bébé était pédiatre ou obstétricienne. Lui qui avait passé toute sa vie d'adulte dans la même ville universitaire et vécu sa carrière d'écrivain comme indissociable de celle de professeur dans la même université, ne s'était pas rendu compte que Clark French appartenait à une toute autre catégorie d'auteurs, ceux qui peuvent habiter partout et n'importe où. Clark French faisait partie des écrivains qui fréquentent tous les festivals et manifestations littéraires. Il appréciait à l'évidence. Peut-être même y excellait-il de parler de l'écriture, contrairement à Juan Diego, mal à l'aise sur ce chapitre et peu désireux de l'aborder. Lui, ce qu'il aimait surtout dans ce métier, et de plus en plus en vieillissant, c'était ce qu'il nommait la partie chantier. Clark French courait le monde, mais Manille était son foyer, ou du moins son port d'attache. Lui et sa femme n'avaient pas d'enfants. Parce qu'il voyageait ? Parce qu'elle était spécialiste du bébé et qu'elle en voyait assez dans son métier ? Ou encore, si elle était gynécologue obstétricienne, parce qu'elle avait vu pléthore d'accouchements difficiles et de complications abominables. Il n'y avait pas de festival important ou de séminaire auquel Clark French n'avait pas participé. La partie publique de son métier ne l'assignait pas à résidence aux Philippines. Il revenait à Manille comme on revient chez soi, et parce que sa famille y exerçait. Dans leur couple, c'était elle qui avait une vraie profession. Sans doute parce qu'elle était médecin et issue d'une grande famille de médecins, la plupart des soignants la connaissaient, ne serait-ce que de nom. De sorte que les réanimateurs qui avaient examiné Juan Diego dans l'avion commirent une indiscrétion. Ils firent même un compte-rendu complet de leur découverte médicale et extra-médicale au docteur Quintana. Or, Clark French était aux côtés de sa femme à ce moment-là, et il n'en rata pas une miette. Le passager endormi leur avait paru passablement déphasé. Quand on lui avait dit qu'on le tenait pour mort, il avait ri de bon cœur, expliquant qu'il était en train de rêver de la Vierge Marie. Clark French n'en revenait pas.
Il rêvait de la Vierge, Juan Diego ?
De son nez seulement.